Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio.
Environ 3000 Canadiens, dont 600 Québécois, souffrent de la sclérose latérale amyotrophique. Et pour nous expliquer en quoi ça consiste, et ça touche certains sportifs aussi, certains athlètes, on a avec nous Dr. Rami Massy, qui est de l'Institut neurologique de Montréal. Dr. Massy, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur le Tritac.
Merci d'être avec nous. Oui, on parle de la SLA. Expliquez-nous, ça touche qui et c'est quoi cette maladie?
Donc, c'est une maladie qui affecte beaucoup de Québécois. Là, vous avez parlé là de 600 Québécois en moyenne qui ont ça. Ça affecte les neurones. Donc, les neurones, c'est les cellules qui contrôlent les nerfs. Et spécifiquement, ça affecte les neurones moteurs. Donc, ça contrôle les nerfs et contrôle les muscles. Et donc, ces patients vont souffrir de problèmes musculaires à cause de ces neurones qui dégénèrent. Et donc, ils vont développer de la faiblesse à cause de leur, à cause de cette atteinte neuronale. Ils vont développer de la faiblesse dans les bras, de l'atrophie, donc une perte de masse musculaire, dans les bras, dans les jambes. Mais ça affecte tous les muscles squelettiques. Donc, ça peut affecter également les muscles du visage. Il y a des patients qui ont de la difficulté à avaler, de la difficulté à parler. Et éventuellement, ça affecte également le diaphragme, qui est le muscle respiratoire. Ils ont de la difficulté à respirer également.
Est-ce qu'on connaît les causes?
À peu près 10% des cas de sclérose latérale amyotrophique sont causés par une mutation génétique. Donc, ça vient de l'ADN, et donc c'est hérité souvent d'un des deux parents, mais seulement dans 10% des cas. Dans 90% des cas, on ne connaît pas la cause. On a trouvé plusieurs facteurs de risque associés à la maladie, mais aucun définitif. Donc, on ne sait pas vraiment, mais on a trouvé ces associations-là. Et puis, basé sur ces associations, on pense que certains facteurs peuvent contribuer à la maladie.
Est-ce qu'on peut dire, Dr. Massy, que c'est une maladie qui vise certains athlètes? Là, on parlait de football, de soccer, de hockey, de boxe. Est-ce que des traumatismes crâniens peuvent provoquer la SLA?
Donc, on ne sait pas, mais ça fait partie de ces facteurs de risque qui ont été associés avec la maladie. Donc, il y a clairement les traumas crâniens, ça a été un des facteurs de risque rapportés très souvent dans plusieurs études qui peut mener à la maladie. Il y a même une étude qui a montré des changements au niveau de cerveau de patients qui ont la SLA avec une accumulation d'une certaine protéine qui ressemble au même changement qu'on trouve chez les personnes atteintes de traumatisme chronique, d'encéphalopathie chronique traumatique, vous savez. Et donc les traumas crâniens sont un de ces facteurs de risque. Un autre facteur de risque, c'est le fait de faire du sport de façon intense. Ça a été retrouvé dans plusieurs études. Entre autres, il y a une étude en Italie qui a regardé les joueurs de soccer professionnels d'Italie, des deux plus grandes ligues d'Italie, des deux plus grandes divisions d'Italie. Puis la chance de développer la SLA était plus grande par rapport à la population générale.
Mais docteur Massy,
les études sur la NFL montrent aussi une augmentation chez ces joueurs-là.
Ah oui, mais il n'y a pas eu d'études au hockey ou à la boxe?
À la boxe, je ne pense pas. Au hockey, pas ce que je sache, je ne suis pas complètement certain, pour être honnête.
Ouais. C'est quand même fou, docteur Massy, d'entendre ça, parce que là, on parle d'entraînement intensif de longue durée. Alors, on présume qu'on parle d'athlètes qui sont en forme. Et tout à coup, on se dit, si tu t'entraînes trop intensément, puis j'aimerais ça que vous m'expliquiez ce que ça veut dire dans ce cas-là, trop intensément, tu risques de développer cette maladie.
Donc, la première chose que j'aimerais dire, c'est que il n'y a pas un lien de causalité qui a été établi de façon définitive. On voit des facteurs de risque, donc on voit une association entre le fait de faire du sport intense et le fait de développer cette maladie. Mais ça ne veut pas dire que c'est le fait de faire du sport intense qui va mener à la maladie, n'est-ce pas? Peut-être que c'est quelque chose que les gens qui font du sport intense et les gens qui font la SLA ont quelque chose en commun. Donc peut-être que il y a un gène qui fait que les muscles se développent de façon meilleure chez certaines personnes et donc ils ont tendance à vouloir faire plus de sport. Puis en même temps, ce gène-là peut causer la maladie. Donc je pense que c'est très important de clarifier qu'il n'y a pas un lien de causalité clair établi. Peut-être qu'il y en a un, mais ça n'a pas été prouvé. D'autres facteurs de risque ont été vus aussi, comme par exemple le fait d'avoir un poids, un body mass index, vous savez, le fait d'avoir un indice de masse corporelle trop bas a aussi été associé avec la maladie.
Ah oui.
Également, oui. En fait, les gens obèses sont le fait d'être obèse est partiellement protecteur d'avoir la maladie. On comprend pas tout ça. Peut-être que le fait de sécréter certaines hormones, vous savez, les cellules adipeuses peuvent sécréter certaines hormones, et peut-être que ces hormones-là sont en fait protectives. C'est une des théories, mais on ne sait pas exactement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de continuer la recherche là-dedans.
Oui. Est-ce que, je sais pas si, Dr. Massé, vous regardez la Coupe du Monde, mais chaque fois, les ballons de soccer, c'est très dur, hein, chaque fois que je vois un joueur faire une tête, je me dis, il y a là au moins une commotion cérébrale.
Oui, moi aussi, ça me stresse à chaque fois que je vois ces têtes sur ces dégagements profonds, vous savez, les gardiens qui kickent le ballon, puis là, ça se retrouve dans l'autre côté du terrain, puis on voit une grosse tête. Et on sait que les commotions cérébrales sont vraiment assez élevées au soccer, pratiquement autant qu'au hockey, mais qu'on en parle beaucoup moins. Moi, je me rappelle d'une Coupe du Monde où il y avait un joueur allemand qui a une commotion cérébrale en finale, et puis personne ne l'a remarqué, ils l'ont laissé jouer pendant longtemps, et ça me donnait des poils dans le dos, là, j'en pouvais plus.
Mais vous l'aviez vu, là. Vous voyez qu'il y avait les symptômes d'une commotion cérébrale sur le terrain.
Oui, c'était la finale Allemagne-Argentine, là. Je pense que c'est récent, peut-être. Et oui, c'était très évident, là. Il marchait pas droit. Et puis, évidemment, ils l'ont sorti 15 minutes plus tard. Mais c'est clair qu'il aurait dû le sortir plus tôt, là.
Ouais.
Donc, on sait qu'il y a beaucoup de commotions cérébrales au soccer et qu'ils ne le prennent pas autant au sérieux en général que le football américain ou que le NHL où il y a des protocoles établis, puis il devrait y avoir plus de protocoles au soccer, à mon avis.
Ouais. Pour la sclérose latérale amyotrophique, Dr. Massé, est-ce qu'il y a des traitements efficaces?
Donc, on a trois traitements approuvés par Santé Canada à ce jour. Il y a un traitement qui date des années 90, c'est une pilule qui ralentit la progression de la maladie et augmente l'espérance de vie de quelques mois. Ensuite, on a un traitement intraveineux qui s'appelle le Radicava, qui vient d'être approuvé sous forme orale. Donc, ça va faciliter la vie des patients de ne plus devoir s'infuser ce traitement-là, mais de pouvoir le prendre sous forme de pilule. Puis, un troisième traitement qui a été approuvé en juin dernier. Malheureusement, tous ces traitements aident à ralentir la progression de la maladie par un peu. Ça n'arrête pas la progression. Et donc, on a encore besoin de meilleurs traitements. On a un traitement pour une des formes génétiques qui semble extrêmement prometteur, et c'est ce qui nous excite le plus actuellement, là, mais on a encore besoin de trouver de nouveaux traitements pour les 90% des patients qui n'ont pas la forme génétique.
En tout cas, moi, j'ai lu l'article de Marc Defoy dans lequel vous êtes interviewé, Dr. Massé, là, à propos de Borges Salming, là, l'ancien des Maple Leafs, qui est décédé à l'âge de 71 ans, et la liste des athlètes connus qui ont souffert de la SLA, c'est Lou Gehrig en premier. C'est vraiment troublant, cette maladie.
Oui, c'est troublant parce que ça peut chercher des gens dans la fleur de l'âge. Vous savez, souvent, c'est des gens qui ont fin cinquantaine, début soixantaine, donc c'est quand même relativement jeune, mais ça peut affecter des gens dans la trentaine, dans la quarantaine, des gens qui ont de jeunes enfants, et donc... Oui, c'est sûr que ça vient nous chercher à chaque fois que ça arrive, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'études en cours actuellement à l'hôpital neurologique. Et puis, on espère pouvoir trouver quelque chose. Puis, c'est pour ça que je travaille là-dedans. Là. On espère pouvoir aider les patients le plus possible.
Bon, mais lâchez pas, Dr. Rami Massé de l'Institut neurologique de Montréal. Un gros merci à vous d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça.
Merci, M. Dutrisac. Au revoir.
Au revoir.